Et nous nous retrouvons donc pour ce deuxième numéro de notre nouveau rendez-vous. Et nous allons tenter d'avoir le fin mot sur La société qui vient. C'est un ouvrage collectif publié au Seuil, sous la direction de Didier Fassin, qui va nous en rassembler quelques-uns des fins mots de l'histoire.
La première, le fin mot, Eddie Kachelbergs.
On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui, qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. On le voit déjà, ce qui se passe sur les animaux, par exemple, qui est très révélateur, la traçabilité des animaux, mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens.
Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. C'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que, ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.
La première.
Le fin mot, Eddie Kachelbergs.
Bonsoir Didier Fassin.
Bonsoir.
À l'heure où l'on dit perdre le sens des choses, où les gens ne voient plus, ne se projette plus, ou sinon en tout cas dans la peur de ce que pourrait être demain, c'est audacieux de nous parler de la société qui vient.
Disons que c'est un projet qui est né entre deux situations qu'on a considérées comme critiques généralement. La première qui était en France le mouvement des Gilets jaunes et la seconde, la crise sanitaire mondiale. Je m'étais dit avec d'autres que c'était un moment pour réfléchir sur ce qui nous arrivait au fond et non pas faire un exercice de futurologie, ça s'appelle la société qui vient, mais il ne s'agit pas de prédire quelque chose, mais plutôt d'examiner de la manière la plus lucide possible la société telle qu'elle est aujourd'hui et quels en sont les enjeux pour le futur, et un futur proche, puisque dans l'introduction, il est dit que cette société qui vient est déjà là.
Dans la mesure où vous êtes d'ailleurs professeur à l'Institute for Advanced Study de Princeton, est-ce que cette discipline précisément, Advanced Study, chercher le monde qui vient, n'est pas plus typique des mondes anglo-saxons que des mondes européens, dirons-nous?
Je ne sais pas. Il se trouve que je suis dans un environnement certes privilégié du point de vue de la recherche, mais qui a le grand avantage, au moins dans l'école de sciences sociales que j'anime depuis plusieurs années, de mettre ensemble des chercheurs de disciplines très différentes, qu'il s'agisse d'anthropologie, de sociologie, d'histoire, de philosophie, de théorie politique, de théorie juridique, etc. Et je crois que c'est là quelque chose qui effectivement est rare dans le contexte des États-Unis, qu'il est peut-être un peu moins en France, puisque je suis également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où c'est aussi une tradition de faire réfléchir ensemble des disciplines. Alors, c'est vrai que Nous ne sommes pas dans la logique de prédire quoi que ce soit, et je crois que les sciences sociales, effectivement, se gardent bien de le faire. Et lorsqu'elles l'ont fait, c'est le cas, par exemple, des économistes, souvent, les erreurs ont été cuisantes. Donc, nous ne prédisons pas, mais sur des sujets qui sont extrêmement divers, puisque vous l'avez évoqué, il y a plus d'une soixantaine de chapitres et donc d'auteurs, nous essayons de repérer cette complexité en la regardant avec un œil critique, en essayant d'en dégager ce que sont des enjeux que parfois on ne voit pas quand on est pris dans le feu de l'actualité.
Alors, les deux premières grandes parties, les enjeux de la Terre et les enjeux de la mondialisation, se conjuguent, même si ici, ils sont pris en charge par des chercheurs différents. Mais ils dialoguent la Terre, l'échéance climatique, d'une part, la mondialisation très critiquée ces jours-ci, rendue responsable des pires problèmes. Et pourtant, vous ne projetez pas l'idée qu'elle soit totale, la démondialisation qui s'annoncerait.
Alors, en effet, le chapitre de Christophe Bonneuil que nous avons voulu mettre en début de cet ouvrage, parce que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, lorsqu'on parle de crise, c'est qu'il n'y a plus d'hiérarchie. Or, la crise des Gilets jaunes, par exemple, aussi importante soit-elle, ne doit pas nous faire, ou la crise démocratique que vit aujourd'hui un pays comme la France, ne doit pas faire oublier que l'enjeu le plus critique, le plus important, c'est évidemment la dégradation qui est celle de notre environnement, et notre environnement bien plus que celui qui est localement autour de nous, comme ça a longtemps été pensé, mais véritablement de notre planète dans son ensemble. Et effectivement, la question de la mondialisation nous paraissait aller de soi comme second chapitre dès lors que nous avions commencé sur la planète, continuer par la mondialisation était assez logique. Mais effectivement, moins pour porter un jugement sur cette mondialisation que pour montrer qu'elle prenait aujourd'hui des chemins qui n'étaient pas ceux que l'on avait imaginés d'un phénomène homogène, qui est aujourd'hui à la fois homogène et en même temps déséquilibré, puisqu'il y a des gagnants et des perdants de cette mondialisation, mais qu'il y avait en permanence une reconfiguration de cette mondialisation.
Vous entrevoyez d'ailleurs la tendance à l'hypermondialisation des services en même temps qu'une démondialisation de ce que l'on a connu dans les échanges classiques.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, bien sûr, cette mondialisation est aussi dans une contradiction assez radicale pour ce qui concerne les déplacements non plus de ressources, de biens et de services, mais de personnes. Puisqu'il y a une facilitation de plus en plus grande de la circulation pour une partie des populations mondiales, et en même temps des blocages imposés de plus en plus durement à l'égard des populations, principalement des pays du Sud et bien sûr aussi de l'Est, en ce qui concerne notamment le Moyen-Orient et l'Asie. Et c'est le chapitre qu'a écrit François Héran, un grand spécialiste de ces questions de migration.
Alors, bien sûr, on fait des grandes enjambées, hein, parce que votre livre collectif regorge de détails à cet égard. Mais si je lis volontairement les deuxième, troisième et quatrième parties que vous avez à la fois dénommées politiques au pluriel, où on parle démocratie, autoritarisme, populisme, néolibéralisme, progressisme, on y reviendra, mais aussi une autre partie, les mondes, famille, banlieue, campagne, travail, et puis les inégalités en quatrième partie. Je les lis parce que cela répond ou cela tente d'interroger la question « Qu'est-ce qui fait encore société aujourd'hui ? Comment la régit-on ? Est-ce que c'est la famille, la tribu ?» Certains avaient dit qu'avec les nouvelles technologies, nous serions dans le multinomadisme de nos tribus.
Alors vous faites bien de lier ces trois parties. Et je dirais que, notamment, j'ai placé la question des inégalités au centre du livre, puisqu'il y a encore trois autres parties après. Je l'ai placé au centre du livre parce que je crois que c'est un des très grands défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Elles sont de plus en plus inégales, à la fois inégalités entre pays et inégalités à l'intérieur des pays, et c'est le cas notamment de la France et de la plupart des pays européens. Et je crois que si l'on veut, comme vous le disiez, faire société, Il faut que les écarts soient moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. On sait bien que nous n'aurons jamais de société, il n'y a jamais eu de société égalitaire, mais le mouvement actuel, qu'il concerne, comme nous l'évoquons dans le livre, qu'il concerne les richesses, qu'il concerne l'école, qu'il concerne la santé, qu'il concerne les territoires, il y a des inégalités qui deviennent de plus en plus criantes. Et nous avons en particulier accordé une place spécifique à la question des femmes, parce qu'on sait bien qu'il y a encore des discriminations importantes à leur encontre, mais également la jeunesse, qui aujourd'hui se trouve dans une situation difficile dans beaucoup de pays, bien différente en tout cas de celle de la génération précédente. Et puis, j'ai, avec Anne-Claire de Fossé, écrit un chapitre sur les exilés, c'est-à-dire à la fois les migrants, les réfugiés, qui aujourd'hui probablement représentent la part la plus vulnérable des sociétés occidentales qui ont tendance, on le sait bien, à les rejeter. Et alors, par rapport à cette situation que nous connaissons et qui concerne le domaine social mais aussi économique, la partie sur les politiques, au fond, nous offre une vision des tendances, des variations actuelles, avec un chapitre sur la démocratie, un autre sur l'autoritarisme, un troisième sur le populisme, etc., pour montrer comment, au fond, les sociétés aujourd'hui sont amenées à se positionner par rapport à ces inégalités. Et du coup, l'enjeu pour la démocratie, qui ne va pas très bien, on le voit à travers la démobilisation des votants, on a des taux d'abstention qu'on n'avait jamais eus auparavant, qui marquent le retrait de l'image de représentation, qu'on puisse être représenté par des personnalités, qu'il s'agisse d'un président, qu'il s'agisse de députés ou de sénateurs. Et du coup, un basculement de cette démobilisation qui ne peut plus se faire par la représentation à des nouvelles mobilisations, des mouvements sociaux qui essayent d'apporter autre chose, notamment du côté de la participation. Donc je crois qu'effectivement, ces trois parties, politique, monde et inégalité, se tiennent et essayent d'apporter une réflexion critique sur comment il faut encore se battre pour faire société.
Alors si l'on s'adresse à la cinquième partie que vous avez utilisée ou intitulée au pluriel « reconnaissance », en parlant à la fois de classe, de genre, de race, de sexualité, d'âge, mais aussi de citoyenneté, de décolonial, de laïcité, d'intimité, de care, de non-humain, si on s'y attarde, c'est parce qu'on a aussi le sentiment que toutes ces sous-sections où l'individu, où le sous-groupe d'individus le plus homogène possible cherche à se faire reconnaître en tant que tel est un mouvement qui tend à annihiler l'universalisme humaniste qui avait prévalu jusqu'ici dans nos démocraties.
Alors pas nécessairement parce que ce qui, et vous avez raison de parler d'universalisme, ce qui probablement a été problématique dans l'universalisme, c'est que précisément il n'était pas universel. Et au fond, rappeler la question des classes ou la question du genre ou la question de la race qui fait en France plutôt polémique, c'est rappeler que précisément ces inégalités, ces discriminations sont elles universelles et que s'il s'agit de penser un universalisme, eh bien il s'agit de le penser à travers ces catégories qui au fond sont très largement distribuées de par le monde, plutôt que d'avoir une cécité qui défendrait un universalisme lisse, sans aspérité, sans différence. Nous avons cherché à rappeler qu'il y avait des différences, qu'il y avait des héritages aussi. La question décoloniale, c'est la question de l'héritage colonial que la Belgique comme la France ont dans leur passé et qui se prolonge aujourd'hui à travers à la fois les relations avec les pays du Sud, mais plus encore, plus directement, avec les migrants et les exilés qui sont sur nos territoires. Et donc, il ne s'agit absolument pas de rejeter l'universalisme, mais de le confronter à la réalité de son histoire et de son présent. Et je crois donc que, et c'est pour ça aussi que nous parlons de citoyenneté, il s'agit de, non pas de fracturer la société, mais au contraire de la mettre à l'épreuve de ce qu'elle est réellement, avec dans ce chapitre sur cet ensemble de chapitres reconnaissance, l'idée que ce sont des termes, ce sont des idées qui sont en train d'émerger. Alors certaines sont relativement anciennes, comme classe bien sûr, mais d'autres comme genre, comme race, comme sexualité et même comme âge apparaissent depuis peu. Et puis bien sûr la question des non-humains qui est non pas à traiter sur le même plan que les humains, mais qui s'est révélé à travers les souffrances animales, à travers aussi la dégradation de la nature. Et au fond, ces reconnaissances, c'est un regard précisément vers un futur qui est en train de se reconstruire autour de ces catégories.
Alors, en sixième partie, que vous titrez toujours au pluriel « Exploration », on sent bien que là, on va aller vers l'exploration de, non pas de l'acquis, mais de ce qui se profile probablement ici comme piste, sinon de solution, mais en tout cas à développer. Vous y parlez économie solidaire, horizon productif, consommation, occupation, entre autres, mais vous y parlez aussi en tête des communs. C'est Judith Rochefeld qui s'occupe de cela. Cette notion des communs, est-ce que c'est la nouvelle façon d'organiser demain la solidarité en société ?
Nous sommes dans une société, nous l'avons dit, de plus en plus inégalitaire et où un grand nombre d'objets sont entrés dans le domaine de la commercialisation, de la financiarisation. Pensons aux fragments de génome, pensons récemment à la vente de poussière de la Lune. Et au fond, on a l'impression qu'il ne reste plus rien de ce qui a été l'existence de commun, c'est-à-dire de ce que nous voulons collectivement défendre pour que ça reste en dehors de la propriété privé strictement, et je crois qu'il y a là des choix de société véritablement importants à faire dans un moment où le néolibéralisme et le capitalisme, pour employer des bien grands mots, ont tendance à refermer cet espace des communs. Et du reste, l'ensemble de cette partie sur les explorations, comme vous le disiez, ne propose pas des solutions définitives, mais ouvre des pistes qui nous font réfléchir à des engagements qui se font aujourd'hui de façon très concrète. Pensons aux formes d'économie solidaire, pensons à ces pratiques de makers qui construisent des objets, comme on l'a vu au moment de la crise du Covid. Pensons à toutes ces transformations qui n'étaient même pas imaginables il y a 20 ans dans nos modes de consommation. Bien sûr, ça ne bouleverse pas encore nos modèles économiques, mais tout de même, la prise de conscience du coût pour la planète de la consommation de viande, par exemple, tout cela engendre des transformations qui sont importantes. Et puis, lorsque un certain nombre de gens veulent défendre une vision de la démocratie qu'ils ne trouvent plus dans la société politique telle qu'elle est aujourd'hui, on voit se développer des mouvements d'occupation, on voit se développer des pratiques de désobéissance civile. Et je dirais qu'il y a là des choses importantes à reconnaître, à souligner, parce que lorsque l'on voit la manière dont, en France, mais dans d'autres pays aussi, en Europe et ailleurs, les exilés peuvent être traités, les violences qui sont commises à leur égard et qui redoublent des violences dans les pays desquels ils viennent, ou ceux qu'ils ont traversés, pensons à la Libye par exemple, garder cette ouverture qu'il est possible de désobéir pour défendre des principes supérieurs, encore que très souvent ceux qui défendent les exilés le font dans un strict respect du droit et se heurtent au contraire à des agents de l'État qui, eux, ne respectent pas la loi. Tout cela, ce sont des choses à quoi il faut être extrêmement attentif pour voir comment notre société est capable de bouger encore, de proposer des solutions là où on peut avoir l'impression que l'horizon est bouché.
Oui, on peut penser à des personnalités comme Cédric Héroux, par exemple, et quelques autres. Je reste un instant, bien sûr, sur ces désobéissances. Vous en parlez comme principe de la démocratie, mais en attirant également l'attention sur ce que vous avez appelé les faux amis de la désobéissance. Vous-même, vous avez consacré un article aux fake news, mais aussi au complotisme. Est-ce que complotisme, par exemple, est un véritable mauvais ami de la désobéissance aujourd'hui ?
Assurément. En même temps, il s'agit de comprendre ce qu'il y a derrière le complotisme. Mon parti pris a été de ne pas tomber dans les deux écueils, je crois, qui sont habituels. Le premier, c'est de dénoncer le complotisme. Le second, c'est de se moquer du complotisme, qui peut avoir des aspects assez insolites, en effet. Et donc, de prendre au sérieux et de se dire, bon, qu'est-ce que ça nous dit de la société ? D'abord, c'est un phénomène complexe, le complotisme. Pensons qu'aux États-Unis, par exemple, les démocrates dénoncent un véritable complot russe au moment des élections qui ont donné la victoire de Donald Trump, mais les républicains répondent en disant « c'est une théorie du complot ». Donc on voit qu'il y a à la fois des théories du complot qui peuvent probablement reposer sur des réalités, et à l'inverse, ou plutôt en complément, la possibilité de se renvoyer les uns les autres des théories du complot. Donc c'est un phénomène complexe, et il me semble qu'il faut hiérarchiser aussi et différencier en distinguant, par exemple, des théories du complot qui sont totalement construites de toutes pièces, comme le Pizzagate qui était censé dénoncer les pratiques pédophiles de Hillary Clinton, candidate à la présidence des États-Unis, et dont on sait que ça a été monté par une petite équipe, et des théories du complot qui sont beaucoup plus diffuses, beaucoup plus générales, comme le grand remplacement. Mais dans tous les cas, la véritable question pour moi, c'est pourquoi les gens peuvent-ils, pour le coup aussi bien vis-à-vis de la Pizzagate que du grand remplacement, pourquoi une partie substantielle de la population, probablement exagérée par les sondages, mais une proportion substantielle, peut adhérer à ces théories ? Et je crois qu'il y a là véritablement un sujet qui, pour le coup, renvoie à la question de la démocratie, c'est-à-dire à la fois de la transparence des politiques, mais également aux inégalités qu'il y a dans la société, puisqu'on sait aujourd'hui, par de nombreuses enquêtes et sur de nombreux sujets, que plus les inégalités augmentent et plus les gens ont l'impression que l'injustice qu'ils ressentent est liée à des complots à leur encontre. Donc, je pense qu'il faut être, bien sûr, extrêmement attentif et savoir déjouer, notamment les fake news, comme vous le disiez, mais aussi comprendre ce que renvoie, ce qu'il y a derrière, en quelque sorte, les théories du complot telles que nous les voyons se développer. Alors, on dit beaucoup qu'il y en a de plus en plus, que c'est extrêmement difficile à mesurer. Ce qui est certain, c'est que les technologies actuelles et notamment les réseaux sociaux favorisent non pas leur production, semble-t-il, mais leur dissémination, leur circulation, si on veut. Donc il faut être extrêmement attentif à tout cela, mais véritablement le prendre au sérieux et voir la responsabilité des États dans cette production. Rappelons-nous, au moment de Tchernobyl, la position de la France qui était de dire que le nuage s'était arrêté à la frontière de notre pays. Eh bien, des propos comme ceux-là ne peuvent certainement pas aider à lutter contre les théories du complot.
Merci pour ces fils tissés, Didier Fassin, fort rapidement, évidemment, face à l'ampleur à la fois des sujets, mais aussi de l'ouvrage que je tiens entre les mains, La société qui vient, sous votre direction au Seuil, totalement futurible quoique, mais en tout cas bilan de société pour entrevoir ce qui arrive. La société qui vient, c'est votre ouvrage au Seuil. Merci.
Merci beaucoup.